Bien, alors, d'après vous, où est-ce qu'on en est? La personne qui a son ordinateur ou son micro ouvert.
Sur le verdier, on s'est arrêté en haut de la page 81.
64-19, là, on a fait, normalement.
81, oui, d'accord.
Ouais, on a commencé le 20.
C'est ça. Bien, alors, Yaakov, sur l'ordre de sa mère, est donc entré, quasiment en pleurant. Il est entré chez son père et il va se faire passer, essayer de se faire passer pour Esav. Mais Yitzhak l'avait interrogé et il lui a demandé, on avait vu au numéro 19, ceux qui ont le verdier, ou c'est à peu près la même chose, ouais. Il lui avait demandé, mais comment as-tu pu trouver si vite? Alors, bon, le Midrash, il dit autre chose, mais le problème, c'est qu'Yaakov, déguisé en Esav, a répondu, c'est Hachem ton Dieu qui fit venir à moi. Il a répondu que c'était Hachem qui a fait en sorte que les animaux que je devais chasser, j'avais pas besoin d'aller les chasser, ils venaient à moi. Et pourquoi est-ce qu'ils venaient à lui? Parce qu'il avait ce fameux manteau qui était le vêtement que Hachem avait fait à Adam Harishon. Ce manteau-là, il avait un parfum de Gan Eden et que du coup, les animaux venaient en confiance. Ils respiraient cette odeur de Gan Eden et donc ils venaient en confiance vers l'endroit de cette odeur. Et donc, il n'avait aucune difficulté. Et alors, lui, évidemment, Jacob, il a répondu ce qu'il a répondu, pas parce qu'il a chassé, effectivement. Mais le problème, c'est que Jacob, il s'est trahi. Parce que, comme dit le Midrash plus bas, que Rabbi Yochanan avait dit, Jacob agit comme un corbeau qui brûle son propre nid. Quand il lui dit, c'est Hachem ton Dieu qui fit venir à moi, il sera qu'à penser, Esav ne mentionne jamais le nom d'Hachem. Mais celui-là qui se tient devant moi, il l'a fait, il a mentionné le nom d'Hachem. Donc ça n'est pas Esav, c'est Yaakov. Et du coup, le Midrash disait, après que il ait fait comme ça, Yitzhak lui a dit, approche. Que je te tâte, mon fils. Là, il a compris que c'était raté, quoi. Mais Hachem a envoyé les fameux deux anges qui l'ont aidé, ils l'ont quasiment porté, et chacun le tenait sous un des coudes. Ils l'ont porté à bout de bras, si on peut parler comme ça, pour qu'il tombe pas, parce que c'est en application d'un passouk du Navi Yeshaya qui disait, n'aie pas peur, je suis ton Dieu. Ne fonds pas comme de la cire, comme on avait dit. N'aie pas peur. En fait, ça correspond bien à ce que, vous vous souvenez, on avait fait remarquer que Rivka, sa mère, quand elle l'a accompagnée à la porte d'Itsrak, elle lui a dit, moi, j'ai fait mon devoir de t'amener jusque-là. À partir de maintenant, c'est que c'est ton créateur qui doit s'occuper de toi, en fait, qui doit te faire tenir. Yakum lecha, qui se lève pour toi. Là, du coup, c'est vraiment Hachem qui se lève et qui fait tenir Yaakov debout après qu'il se soit en fait, trahi. dans la formulation qu'il a utilisée pour parler à son père, qui n'était pas du tout une formulation essavienne. Ésav ne parle pas comme ça. Alors Yaakov s'est effectivement approché d'Yitzhak, comme il le lui avait ordonné, et il a dit à Kol Yaakov. Alors on avait vu que la première chose que dit le Midrash, c'est de dire que c'est la voix d'un intelligent. Le Kal Hakim, quelqu'un qui a de la chokhma. Vidaya de Mshlachin Mitin. Mshlachin Mitim, donc ils ont traduit par des écorcheurs de cadavres. Donc c'est le fait que Esav s'occupe, il est en relation directe avec la mort. Les valeurs de Esav, c'est la mort parce qu'il s'éloigne d'Hachem. Il s'éloigne de la source de vie, donc il s'occupe des morts, en fait. Puis ensuite, le Midrash continue et il dit quelque chose qui va être très important pour la suite. Il dit, cette voix, c'est la voix de Yaakov. Il dit, Yaakov ne domine que de la voix. Et de même, les mains sont les mains d'Ésav. Ésav, lui, ne domine qu'avec les mains. Et Rabbi Pinchas dit que la voix de Yaakov, s'il l'étouffe, alors les mains d'Ésav. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si Yaakov lui faisait un signe, et du coup, Ésav apparaît. Bon, ils ont expliqué, dans la note 4, ils donnent une autre explication. Je pense que je lirai ça plus différemment. Ce n'est pas. C'est-à-dire, la voix de Yaakov, naturellement, elle a tendance à s'exprimer, mais si lui, Yaakov lui-même, il étouffe sa propre voix, il l'empêche de rayonner en fait. Alors, il fait apparaître Esav, comme Hachem, comme vous savez, Rivka. Quand on lui a annoncé qu'elle avait deux enfants, on lui a annoncé que les deux ne pourraient pas être tous les deux au top niveau, qu'il va y avoir un effet de balance. Alors si l'un est au top, alors l'autre est au plus bas. Alors ça peut bouger, mais enfin ça bouge toujours de cette même manière. S'il y en a un qui un ne peut s'élever que si l'autre tombe. Donc Esav n'a de place que si Yaakov le lui permet en quelque sorte. Si Yaakov se disqualifie, si Yaakov ne joue pas son rôle, alors il laisse la place à Esav. Mais on part, d'une situation où normalement c'est Yaakov qui est, voilà, c'est lui qui est en haut. Comme Hachem, comme Yitzhak a donné cette bracha d'abord à Yaakov, donc ça part de là. Yaakov est en haut. Si maintenant Yaakov se disqualifie, il fait pas ce qu'il faut, s'il étouffe sa voix, etc., alors les mains de Yaakov peuvent advenir et peuvent survenir, c'est-à-dire elles peuvent venir et dominer.
les mains des sables.
Abraham a dit que si la voix de Yaakov tremble, alors les mains des sages font sentir leur domination. Mais si sa voix, ils ont traduit par gazouille, les mains des sages sont impuissantes. Alors, dans le texte qui est pas, ils n'ont pas traduit ça, la totalité. Dans le texte du Midrash, il dit que Kolo shel Yaakov, Machnis, c'est lui qui fait entrer le cas échéant à Yadaim et des Esav. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si Yaakov disait à Esav, hein, voilà, je te laisse passer, c'est ton tour. Et ensuite, on dit au nom de Rabrachia. Alors, il dit effectivement, Béchach et Yaakov, Markin Bekolo, et des Esav Sholtot, ils ont traduit par. Lorsque la voix de Yaakov, ils ont tremble, mais le Midrash, il ramène là-dessus, il amène un passouk. Et il dit, il amène comme passouk, Vaïlonu ha'am al-Moshe, Vayavo Amalek. C'est-à-dire, ce qu'ils ont traduit par trembler, Vaïlonu ha'am al-Moshe, c'est en fait le peuple a murmuré contre Moshe. Le peuple s'est révolté contre Moshe, et du coup, Vayavo Amalek. C'est-à-dire, quand le peuple s'est révolté contre Moshe, c'est celui qui donne la halakha, celui qui donne la loi, c'est celui qui guide le clan d'Israël. C'est celui qui dit ce que Hachem veut faire connaître aux Bnei Israël. C'est un avis, c'est un prophète. Donc si les Bnei Israël, effectivement, ne reconnaissent pas l'autorité de Moshe Rabbeinu en tant que celui qui parle au nom d'Hachem, alors va y avoir Amalek. Enfin, c'est le vav de Vayavo Amalek, c'est lié. C'est parce que Vaylonu, alors Vayavo Amalek. Ubesha Sheu Metzafsef Bekolo, En Ayadaim Yedei Sav. C'est-à-dire, En Yedei Esav Sholtot. Littéralement, c'est effectivement les Tsaftsef Bekolo. Tsiftsouf, c'est comme siffloter, c'est comme, ils ont traduit gazouiller. Alors, ici, il faut fermer le micro, s'il vous plaît.
Oui,
Donc, en fait,
ce sera dire, Java.
le problème, c'est effectivement lorsque les Bnei Israël sont, ils parlent de façon très très agréable. Tzivtzouf, c'est bon, ça veut dire c'est une façon aussi de dominer, quoi, quelque part, la situation. Le tsafsef, c'est aussi ce. Si on émet tsafsef sur ce que les autres disent éventuellement, mais simplement ils appliquent. Avec leur voix, ils couvrent en fait ce que disent les autres de. Alors, quand il le fait, alors les yadaim des saves ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent pas dominer. Toujours l'illustration du fait que quand la voix de Yaakov, quelle que soit la forme de la voix de Yaakov, mais par sa voix, il domine. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Lo amdu pilosofin baolam, ki bilamben beor, ki avnomos, agardi. Alors, parmi les nations, donc il n'y a jamais eu de philosophe égal à Bilam. Et ils ont traduit un certain Enomaos de Galad, mais Gardi, normalement, un Gardi, c'est un tisserand. Nitkansu kolovde kochavim etzlo. Tous les idolâtres se sont rassemblés chez ce Avnomos, et lui ont dit, Tomar chez Anouy Cholim, Lis d'Avegle ou Mazou, ils lui ont demandé, est-ce que tu penses que nous pourrions nous opposer et gagner contre ce peuple? Est-ce que tu penses que on pourrait dominer ce peuple? Alors, il leur a dit, le chou v'chazru al batek nesiot v'al batek midrashot. Allez et rendez, entrez dans les Batek Nesiot et Batek Midrashot, dans les lieux de, disons, dans les lieux de prière et dans les lieux d'études des Béné Israël. Ve'im atzatem sham tinokot, metzafsefim bekolan, et si vous trouvez là-bas des enfants qui, justement, c'est metzafsefim, c'est-à-dire en fait, ils gazouillent, disons, avec leur voix, c'est-à-dire des enfants qui prient ou des enfants qui étudient, et natem yucholim les avec laem. Vous ne pourrez pas dominer ce peuple. C'est pas possible. Shekach parce que leur père leur a promis, il leur a dit à kol kol Yaakov. Bisman shekoloshel Yaakov le Batek Nesiot, si la voix de Yaakov est présente dans les Batek Nesiot, en ayadaim de Esav, dans les lieux de prière, je ne sais pas pourquoi il n'a pas répété les lieux d'études, alors les mains de Yaakov ne pourront pas se manifester, donc Yaakov ne pourra pas dominer. Vehimlav, mais sinon, si effectivement il n'y a pas d'enfant qui étudie ou qui prie, alors ayadaim yedei esav, c'est-à-dire atem yucholim, dans ce cas-là vous pourrez les battre. Ici, ce qu'il leur a dit, il n'a pas dit. Si vous voyez qu'il y a des gens qui étudient et qui prient, Il a dit, si vous voyez qu'il y a des enfants qui étudient et qui prient. Donc à l'Israël, on a toujours fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour inciter même les enfants, même très jeunes, pour leur apprendre à prier, pour leur apprendre à étudier. D'accord? Pour qu'on entende la voix des enfants, que les enfants, depuis tout petit, parlent tout de suite. Il y a une halakha qui dit que quand un enfant apprend à parler, la première chose que un père doit enseigner à son enfant, il doit lui enseigner Torah Tziva lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Il doit lui enseigner que Torah Tziva lanu Moshe, la Torah, c'est Moshe qui nous l'a ordonné, qui nous l'a enseigné, ordonné. Et la Torah est Morasha, elle est un héritage de Kehilat Yaakov, de l'assemblée de Yaakov. Le mot Kahal associé avec Yaakov, c'est ce qu'Hachem a promis à Yaakov. Yaakov, sur son lit de mort, il appelle Yosef et il lui dit, quel Shakai m'a s'est révélé à moi et il m'a promis que entre autres, que je deviendrai Kahal Amim, une assemblée de peuples. Une assemblée de peuples, ça veut dire que le clan Israël est une assemblée de peuples. A priori, ça veut dire que le clan Israël qui est constitué par les Shvatim, par les tribus. Et vous vous souvenez que Yaakov, quand il a vu autour de son lit de mort, il a vu ses fils, il a dit, mais j'ai raté mon affaire parce que j'étais censé fabriquer un peuple et je vois que j'ai devant moi 12 peuples. Alors, ses fils l'ont rassuré, ils lui ont dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ils l'ont rassuré, ils lui ont dit, c'est vrai, Hashem Elokeinu, c'est-à-dire, Hashem est notre Dieu, c'est au sens où il est le Dieu de chaque tribu. En d'autres termes, chaque tribu perçoit Hashem à sa manière. On avait même dit, vous vous souvenez probablement, que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils se sont trouvés à franchir la mer s'est ouverte pour eux, mais elle s'est ouverte sous forme de 12 canaux. Chaque tribu a passé par un canal spécifique. Pourquoi il fallait que chaque tribu passe par son canal, parce que la sortie d'Égypte, qui était le summum de la sortie d'Égypte, c'est le passage de la mer, la sortie d'Égypte n'est pas vécue du tout de la même manière par toutes les tribus. Bon, ça veut dire, imaginez, chaque tribu, quand elle est sortie d'Égypte, elle est sortie avec sa musique à elle, avec son rythme à soi. Si, je sais pas, il y a peut-être des gens qui dansait, je ne sais pas, il dansait, mais chacun avait ses danses et il avait son langage, même si tout le monde parlait officiellement la même langue. Mais chacun parle la langue avec sa spécificité. Les mêmes mots n'ont pas obligatoirement le même sens dans les différentes tribus. Bon, on n'a pas besoin d'aller jusque chez les tribus. Quand vous. On parle pas, on, les mots n'ont pas obligat, tous les mots n'ont pas le même sens à Paris et à Marseille. Pas besoin d'aller très loin. Peut-être qu'il y a même Paris-Lyon, c'est déjà suffisant, que ça n'ait pas le même sens. Je suis pas obligé d'aller jusqu'à Marseille. Et donc, c'est le cas aussi dans les. C'est pour ça, entre autres, que il faudra des tribunaux spécifiques pour chaque tribu, etc. Parce que chacun a une compréhension différente des mêmes mots et un ressenti, si on peut parler, différent de la relation avec Hachem. Mais ils l'ont rassuré. Ils lui ont dit, mais il y a une unification parce que Hachem est Echad. Il est néanmoins Echad. Bien que nous le percevions chacun à notre manière, mais nous savons qu'il est Echad, qu'il est un. Et nous reconnaissons qu'il est un. Nous reconnaissons que c'est le même. Simplement, de la même manière que nous n'avons pas, deux personnes n'ont pas, je sais pas, ils ne voient pas les couleurs de la même manière, etc. C'est, il y a plein de choses qui nous distinguent les uns des autres. Ça existe aussi à l'échelle des tribus. Et donc, ici, quand on dit qu'effectivement les Bnei Israël, en fait, il y a une singularité en quelque sorte dans le clan d'Israël, de chaque groupe, de chaque tribu, par exemple. Et donc, dans les enfants, effectivement, les enfants de chaque tribu vont apprendre différemment les choses. Pas du Minakatsé et Lakatsé, mais c'est des façons différentes de vivre la Torah. Et ça, c'est fondamental. Et ça, je sais pas qui est ce philosophe, ou ce, je sais pas ce qu'il était, on a dit, il n'y a pas de philosophe égal à Bilam, et aussi à celui qui, dans le Midrash, il est appelé Avnomos. C'est le tisserand. Bon, c'est sûrement donc ce nom grec là de Avnomos, enfin disons en tout cas partiellement grec, mais c'est aussi un tisserand et comme vous savez les tisserands c'est les gens qui doivent faire des nœuds et les nœuds c'est le début de la science. Bon, c'est la caractéristique, le commencement de la science, les nœuds. Donc, je sais pas, présenter Bilam comme un philosophe, je ne sais pas, bon, j'ai rien contre, hein, mais je vois pas en quoi il est spécifiquement un philosophe. Mais bon, l'important, c'est que on a interrogé un des grands personnages, semble-t-il, qui font l'unanimité parmi les Umot Haolam, parmi les peuples idolâtres. Et on lui a demandé effectivement, est-ce que les goyim ont une chance de dominer les Bnei Israël? À l'époque de, je ne sais pas, c'est Avnomos à quelle époque il vivait, mais à l'époque de Bilam. Le clan d'Israël qui était encore dans le désert, qui était guidé Par Hachem, pris en charge complètement par Hachem. Donc lui, c'est pas lui qui a répondu, c'est curieux. Bon, ça veut dire que c'est le deuxième, c'est pas comme si on n'a pas voulu le grand patron. Si vous voulez des Omot c'est présenté, c'est Bilam, enfin, c'est celui qui correspond chez les Goïm à Moshe Rabbeinu, chez les Bnei Israël. Le Avnomos, je ne sais pas à quoi il est comparable. Et en tout cas, c'est lui, c'est le Avnomos qu'on a interrogé, et pas Bilam. Parce que, oui, pourquoi, je ne sais pas. Et lui, il a répondu que, en fait, tout dépend du problème, c'est tout un problème d'éducation des enfants. L'important, c'est qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants. Est-ce que les enfants sont. Est-ce que les enfants, dès le premier âge, on leur enseigne à faire l'essentiel de ce que le clan Israël doit faire, c'est-à-dire entrer en relation avec Hachem, des deux manières que nous avons à notre disposition, par la prière et par l'étude. Si les Bnei Israël font bien très attention d'éduquer les enfants dès le départ dans cette bonne direction, alors ils sont inattaquables. Sinon, ils sont attaquables. Donc on est dans la parole, n'est-ce pas? C'est la parole prière et la parole étude. La parole prière, c'est la parole humaine qui s'adresse à Hachem. Et la parole étude, c'est la parole où l'homme a la. En fait, on a la parole d'Hachem dans sa propre bouche. C'est les hommes qui parlent divinement. Dans l'étude. C'est les hommes qui fabriquent la Torah. Ils développent cette Torah, c'est la fonction du clan Israël. Développer la Torah, la faire connaître, la faire apprécier, la faire accepter en quelque sorte. Maintenant, le Midrash continue et il a l'air de bifurquer en quelque sorte. À Kol Kol, Yaakov, Befilegesh Begiva. Comme c'est marqué dans le pasouk, Ara Arour, Noten Isha le Vinyamin. Donc vous savez l'histoire. Pilegesh Begiva, c'est une tragédie, c'est une histoire horrible où les gens de Giva, c'est un endroit de la tribu de Binyamin, où les gens de Giva ont violé, quasiment tué une femme. On va pas entrer dans le détail maintenant. Et ça a eu un retentissement gigantesque. Et toutes les tribus Donc, sauf la tribu de Binyamin, toutes les tribus ont fait un serment qui est rapporté ici. Arour, maudit soit celui qui va donner une femme aux hommes de Binyamin. Ils se sont interdits, par Hérem, par malédiction, de se marier, de donner des femmes, donc d'assurer un renouveau, d'assurer la suite de la tribu de Binyamin. Donc ça veut dire Binyamin va se refermer sur soi, la tribu de Binyamin, a priori avec une attitude de ce genre-là, de toutes les autres tribus, la tribu de Binyamin va disparaître. Pourquoi? Parce que la tribu de Binyamin, je ne sais pas, on a étendu toute l'affaire. C'est quelque chose qui s'est passé à Giva, en un endroit de Binyamin. On a mis toute Binyamin en cause, comme si effectivement, si c'était possible que ça se produise dans la tribu de Binyamin, ce qu'il y avait dans l'enseignement, dans la façon de vivre, etc., dans la tribu de Binyamin, quelque chose de suffisamment mauvais pour que ça puisse s'exprimer de la façon dont ça s'est exprimé à Giva. Et donc, ils ont condamné à mort quasiment la tribu de Binyamin. Mais ils auraient pu le faire en faisant la guerre à Binyamin. On aurait pu massacrer les gens de Binyamin. Mais Israël, Hakol Kol Yaakov, Yaakov, Israël, ça fonctionne avec la parole. Et ils ont Arour, Notenisha, c'est de la parole. Ils ont fait un accord entre eux, avec un cherem, littéralement, en parole contre Benjamin. Le Kol Kol Yaakov est aussi un moyen, le cas échéant, de se défendre, d'attaquer, de éventuellement même de tuer. Mais on va pas tuer avec les armes d'Essav. Le clan Israël, même quand il juge qu'il doit détruire une tribu, il ne prend pas les armes. Si, quelque part, le problème de la guerre, si vous voulez, pour les Bnei Israël, c'est un problème. Je vous rappelle que dans le Yad Chazaka, dans l'ouvrage d'Halakha du Rambam, il y a un chapitre sur les rois. Le chapitre sur les rois s'appelle Ilchot Melachim ou Milchamotehem. C'est les lois des rois et de leur guerre. Le roi doit faire des. Il y a des situations où il doit faire la guerre. Mais a priori, le roi, pour faire la guerre, il doit consulter le Sanhédrin. Il faut que le Sanhédrin, que les Chachamim lui permettent de faire la guerre. À ce moment-là, ça peut être une guerre du clan Israël. Quand David a fait des guerres sans consulter le Sanhédrin et qu'il a conquis les territoires, cette conquête-là s'appelle Kibouch Yachid. Une conquête littéralement d'un individu. Par contre, quand Yoshua a conquis Eretz Israël sur l'ordre d'Hachem, c'est-à-dire avec l'accord du Sanhédrin, si on veut. À ce moment-là, ça s'appelle Kibbutz Rabim. C'est la conquête du multiple, du peuple. Et la halakha qui s'applique sur les territoires conquis par le Tzibour ou sur les territoires conquis par un Yahid n'est pas la même. C'est-à-dire que la conquête par un Tzibour, ça donne à la terre conquise une dimension de Eretz Israël, si vous voulez. Les conquêtes de David, qui sont des kibouches yachides, ça ne donne pas à ces territoires une dimension de Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on va appliquer midérabanan certains des dinim d'Eretz Israël, mais pas minatora. D'une certaine manière, quand on est obligé de se salir les mains à faire la guerre, d'une certaine manière, ça veut dire qu'on prend les instruments des Saves. Al-Kharb Khatihye, ça a été dit à Esav, pas à nous, pas à Yaakov. Yaakov, quand il s'est préparé à affronter Esav, il s'est préparé, comme tout le monde sait, de trois manières, avec la tfila et avec des cadeaux, mais aussi il s'est préparé à faire la guerre. C'est-à-dire que si on est agressé, si on est attaqué, il faut faire la guerre. Il ne s'agit pas de se laisser massacrer. Il faut faire la guerre quand on est attaqué. Mais dans toute la mesure du possible, il faut faire la guerre en se salissant les mains le moins possible. C'est-à-dire en utilisant le moins possible les mains de enfin le, les, la démarche main de Yaakov. C'est nécessaire. De même, Bimei Yerovam. Bon, Yerovam, Jéroboam pour les intimes. Yerovam, c'est le premier roi du royaume d'Israël. C'est celui qui a été nommé roi par Hachem au moment du schisme. Donc, Yerovam, c'était, vous imaginez bien, quand Hachem a désigné Yerovam pour être le roi de 10, enfin 9 tribus et demie du clan Israël, ce Yerovam, ça devait être la crème de la crème. Il était de la tribu d'Éphraïm, mais ça devait être la crème de la crème. Hachem n'a pas choisi n'importe quel bonhomme pour devenir roi. Et pourtant, il a fini par être un des rois les plus idolâtres qu'on ait jamais eu. Et on dit, Bimei Yerovam, Kol Bechi She Argu Mehem Chamesh Meot Elef, Vada Udirtiv, Velo Otsar Koach Yerovam Od. Bimei Aviyahu, Vayakfehu Hashem Vayamot. Zamar Rab Shmuel Bar Nachman, Ma'at Savour, qu'est-ce que tu penses? Chez Yerovam Nigaf, Valo Lo Nigaf Ela Aviyo, Aviyah. Velama Nigaf? Rabbi Abba Bar Kahana Amar, Alide Shevir, Akorat Pnehem Shel Israël, Dirtiv, Akorat Pnehem Antavam. ורב לוי אמר, על ידי שהעמיד עליהם שומרים 3 ימים עד שנתקלקלה צורתן. דתנן אין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם, יש סימנים בגופו ובכליו, ואין מעידים אלא עד 3 ימים. להם הוא אומר, עד שמאלי אלמנותיו בכל ימים, רבי יוחנן ריש לקיש, רבנן. On va voir, ça c'est une nouvelle, c'est toujours sur Yerovam, mais c'est autre chose. On va traduire avec le verdier là. Ils ont donné un résumé seulement, effectivement, ce qu'on va faire aussi. Alors, cette voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains sont les mains d'Ésav. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Yerovam. Yerovam, qui, comme je vous ai dit, a été choisi pour être le premier roi du royaume d'Israël, du royaume du Nord, finalement, il n'eut plus de force au temps d'Avias, et Hachem le frappa et il mourut. Crois-tu lire que Hachem a frappé Yerovam? Il a frappé Avias. Et pourquoi il a frappé Avias? Parce qu'il avait défiguré les fils d'Israël. D'accord? Comme dit le Passouk, dit, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Comment il a fait? Il a placé des gardes pour veiller 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient défigurés. C'est-à-dire, il les a tués et il a empêché qu'on puisse les reconnaître. Il a mis des gardes pour qu'on puisse pas les enterrer. Et donc, on a attendu 3 jours. Parce que la halakha, elle est que, halakhiquement, si on a un cadavre et qu'on doit l'identifier, pour l'identifier, pour considérer qu'on est capable d'identifier, il faut qu'on voit dans le visage, qu'on voit le nez aussi. Et on ne considère pas qu'on a identifié quelqu'un si on a identifié son corps et ses vêtements. Ça ne suffit pas. Et après 3 jours, on ne peut pas considérer qu'on a identifié à coup sûr quelqu'un. Et justement de ces gens-là qui ont été défigurés par Yerovam, le passouk dit, les veuves sont plus nombreuses que le sable de la mer. Il y avait plein de femmes qui avaient perdu leur mari, qui ont été massacrés par Yerovam. Bon, tout ça, c'est pour dire qu'il y a eu un moment où il y a eu la guerre. Mais c'est une guerre que Yerovam a faite avec les mains de Esav. Défigurée, etc. Toutes ces mesures qui viennent, disons, déshumaniser. Ça, c'est la démarche de Ésaü. Ce n'est pas la démarche de Jacob. Et c'est quand on veut dire effectivement combien Yerovam s'est dégradé, il n'y a pas seulement qu'il a pratiqué l'idolâtrie, etc., mais ça aussi. Il a attendu que les gens soient défigurés pour les empêcher qu'on puisse les reconnaître vraiment. Et puis ensuite, on n'a pas la certitude, on ne sait pas vraiment qui on enterre, quoi, quelque part. Il y a plein de veuves, elles sont veuves, mais à la limite, elles n'ont pas eu l'occasion de voir même les cadavres de leur mari. Et puis il y a sur Yerovam, on avait vu que Yerovam, il a eu un maître qui était un prophète, qui était Achia Shiloni. Achia était son rebbe, son maître. C'est lui qui a fait ce Yerovam, le Yerovam auquel Hachem a donné toutes ses tribus. Et quand il s'est dégradé, quand Yerovam a très mal tourné, alors, effectivement, il s'est retourné contre son maître. Et c'est ce qu'on nous dit maintenant, que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, et les Rabbanan. Il y a trois opinions. Rabbi Yochanan, Rish Lakish, et les Rabbanan. Rabbi Yochanan dit, Al Shebizal la Achia ben Ashiloni. Bon, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que on a puni, en fait, Yerovam? Parce qu'il a été mévasé. C'est-à-dire qu'en fait, il a méprisé, il a Achia Shiloni, son maître. C'est marqué effectivement dans Divrei Hayomim. C'est écrit, Vimachem anashim rikim bnei Belial, ou kara l'Achia ou Ashiloni Belial. Il a traité son maître de Belial. Belial, c'est vraiment un homme pervers, c'est quelqu'un qui est bli-ol, quelqu'un qui n'a aucune limite, aucun joug, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut, complètement pervers. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rish Lakish, lui, il dit, Hachel chisdam barabim, shenemar v'atem hamon rav v'imachem, Egle Zahav, Asher Asa Lachem, Yerovam, l'Elohim. Maintenant, Rish Lakish, lui, il a dit de Yerovam qu'il a insulté les Bnei Israël publiquement. Effectivement, toujours dans Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques, il est dit, vous avez avec vous les veaux d'or que Yerovam vous a fait pour Dieu. C'est-à-dire, Yerovam vous a fabriqué les veaux d'or. Vous vous souvenez que Yerovam, il avait installé au nord et au sud de son royaume deux veaux d'or qu'Hachem lui avait demandé de ne pas faire, etc. Et là, le texte dit que, en fait, Yerovam vous a donné ses veaux d'or pour Dieu, comme si c'était les divinités. Ça, c'est Rish Lakish, le côté insulte publique. Et puis, les rabbins, eux, ils disent autrement. Ils disent, c'est parce qu'il négligea d'abolir le culte des idoles tombées entre ses mains. C'est marqué dans le passouk, toujours dans les chroniques, c'est écrit que Abijah a poursuivi Yerovam, il a fait la guerre contre lui, il lui a pris des villes, il a pris Bethel et les environs, Yeshana et les environs, Ephron et les environs. Et il a placé un de ses veaux à Bethel et l'autre à Dan. Si quand il en trompe un autre, l'Écriture dit d'un roi qu'il est châtié et frappé, que ne fera-t-elle, donc l'Écriture, d'un kidam qui trompe un autre kidam? Qu'est-ce qu'il dit ici? Le passouk, quand un roi trompe un autre roi, simplement. Le pasouk le punit, il le frappe, le châtie. Alors évidemment, quand c'est un simple kidam, comme ils ont traduit, qui trompe un autre kidam, à plus forte raison qu'il va être puni, puisque quand les rois se trompent les uns les autres, on peut dire que, en fait, c'est des conflits politiques, c'est pas complètement personnel. Et malgré tout, il est puni personnellement. Alors, entre individus où c'est entièrement personnel, c'est sûr qu'il va être, il va être directement puni. Il y a un chazal qui dit que Kol HaSheharim, Kol HaSheharim Ninalim, Hutz Misharei Onaa. Ça veut dire toutes les portes sont fermées, sauf les portes qui concerne les problèmes d'Onaa. Onaa, c'est la fraude, c'est tromper quelqu'un, tromper dans le business, etc. La Torah, elle considère que Ein kapara le Onaa dvarim. Alors, quand c'est une Onaa sur un prix, alors on peut réparer. Mais quand on a trompé quelqu'un simplement par la parole, c'est-à-dire qu'on a donné à quelqu'un un mauvais conseil ou des choses comme ça ne peut pas se réparer. De la même manière, quand on met quelqu'un tellement mal à l'aise qu'on le fait blêmir en public, ça non plus, ça ne se répare pas. Et donc justement, une des fautes de Yerovam, c'était au niveau de la tromperie. Il a trompé les gens, il a systématiquement, quelque part, il a dû tromper tout le monde, finalement. Et ça, c'est toujours un problème, c'est est-ce qu'il faut penser qu'on s'est trompé sur Yerovam quand il a été nommé? Ou est-ce que non, il a été nommé, mais pour de bonnes raisons, mais il n'a pas supporté le pouvoir qui lui a été donné, il n'a pas su le gérer. Bon, c'est toujours une question qu'on peut se demander, c'est comment se fait-il que Hachem l'a nommé? Hachem savait bien qu'il n'allait pas être capable de gérer. Bon, mais ça c'est une question standard, ça fait partie du libre arbitre des hommes. Donc quelqu'un, au moment où il a été nommé, c'est sûr qu'il méritait d'être nommé. Et même si Hachem sait que par la suite, il ne tiendra pas la distance, Hachem n'en tient pas compte obligatoirement.
Mais quand même, Rav, on peut constater que de nombreux rois du royaume du Nord ont des mauvais comportements, idolâtrie, tuerie, etc. Et donc ici, ça commence par Yérovam, ça va continuer ensuite sur d'autres dynasties. Et là, vous nous dites, je ne savais pas,
que le Yerovam, il a été nommé par Hachem. Est-ce qu'on peut aller plus loin et dire que ici, on reconnaît la perte, il va y avoir la destruction du royaume d'Israël par les Assyriens? Est-ce que ici, c'est une peau de banane qu'il a lancée, Hachem, sur ce schisme-là après la mort de Salomon ou quoi?
Alors, d'abord, on peut dire que la faute du schisme, a priori, c'est Rehovam, c'est l'autre, c'est le fils de Shlomo qui n'a pas obéi à ce que les Chachamim lui ont dit. Les Chachamim
Oui.
sont venus lui dire, écoute, ton
Les
père,
impôts.
il nous a accablés d'impôts, on ne peut pas tenir, il faut que tu... Lui, il a construit le Beth Amikdash, d'accord, etc., mais il faut que tu allèges. Et on peut dire, c'est idiot, je sais pas. Il a dit, non seulement je vais pas alléger, je vais alourdir. Alors Hachem lui a envoyé le prophète pour lui dire, ok, alors, c'est terminé, je te prends, tu ne seras plus roi que de deux tribus et demie. C'est tout. Les d'autres, ça va être Yerovam. Et donc, il est clair que ce Yerovam, au moment où il a été nommé et au moment où il avait les premiers problèmes, c'était de quelqu'un de tout à fait respectable, à un moment... Vous connaissez un peu son histoire.
Mais il me semble que le texte, rapidement, nous dit que justement, pour éviter que les 9 tribus et demie viennent à Jérusalem
Oui,
dans
oui.
les Shlosh Regalim, et il a construit rapidement un temple idolâtre pour que voilà, ils
Non, c'est
puissent
les deux veaux.
avoir.
Il a installé les deux veaux. C'est les veaux d'or qu'il a installés. Mais l'idée, c'est ce que Chazal nous explique, en fait. C'est ce que, quand il a été nommé, il avait un problème. Il ne savait pas régler. Il a été nommé roi. Mais ses sujets, 3 fois par an, ils avaient une mitzvah d'aller à Yerushalayim au Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash n'était pas sur son territoire à lui. Le Beth Amikdash, il est sur le territoire de Rehovam, de l'autre. Et donc lui, il a dit, je supporte pas d'avoir tous les hommes de mon royaume, 3 fois par an, ils vont au Beth Amikdash sur le territoire. Mais évidemment qu'ils ne peuvent pas aller au Beth Amikdash et sans aller faire une espèce de mini allégeance à Rehovam dont le palais est juste à côté.
Mais ça, c'est de la
Et
politique, Rav.
pardon?
C'est de la politique, ça.
Oui, c'est tout à fait de la politique. Alors, lui, il disait, j'y arrive pas, je supporte pas. Et alors, il a décidé, comme vous l'avez rappelé, il a décidé de murer les routes qui mènent à Yerushalayim pour que les gens de son royaume ne puissent pas aller là-bas. Et seulement le problème, c'est les gens, ils ont besoin de cette espèce de respiration Beth Amikdash, donc très spirituelle, 3 fois par an. Alors il a décidé qu'il allait leur offrir aussi quelque chose du même genre. Et donc, il a installé des veaux d'or à Bethel et à Dan, donc au nord et au sud de son royaume. Les veaux d'or qu'il a installés n'étaient pas du tout des idoles. Les veaux d'or, il faut se souvenir que Yerovam, comme je vous l'ai dit, Yerovam, il est de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, c'est un fils de Yosef. Donc, l'emblème de la tribu d'Éphraïm, c'est l'emblème de la tribu de Yosef. Et vous savez bien que l'emblème de la tribu de Yosef, c'est un taureau. Un taureau. La Torah, quand Moshe Rabbeinu donne les brachot à la tribu de Yosef, il l'appelle Shor. Shor, c'est un taureau. Et donc, si vous voulez, si on devait le dire dans le langage d'aujourd'hui, enfin, ou d'avant-hier, disons, ce qu'il voulait faire, lui, C'est des fêtes, trois fêtes de pèlerinage vers les comme si là où il y a les veaux d'or, c'est comme si on allait faire des levées du drapeau. D'accord? On va lever le drapeau avec les trompettes, etc., tout le cinéma. C'est les instruments, les caractéristiques de la tribu. On va honorer la tribu à laquelle, la tribu dominante du royaume. Et Hachem lui a dit non, il ne faut pas faire ça. Ça va devenir Avodazara. Ça n'était pas dans son esprit au départ, Avodazara. Mais Hachem lui a dit, ça va faire la même chose que le veau d'or. Le veau d'or n'était pas au départ une idole. Au départ, c'était un remplacement de Moshe Rabbeinu. Et ça devient une idole. Et ne le fait pas, ça va devenir une idole. Et lui, il voulait le faire quand même. Alors Hachem a joué, si on peut parler presque son va-tout. Il lui a dit, écoute, si tu t'engages à ne pas le faire, alors nous nous promènerons dans Olam Haba. Je me promènerai avec toi et David. Ça veut dire qu'on lui a proposé d'être au même niveau que David. David, c'est deux générations au-dessus de lui, et c'est David le Mashiach. On lui a proposé d'être sur le même plan que le Mashiach. Et lui, il a demandé. Il a dit, mais qui va marcher devant, David ou moi? Non, ce qu'il a dit, c'est, tu me demandes de m'écraser devant Yerovam, devant Rehovam, c'est-à-dire le descendant de David. Dans ce monde-ci, alors si tu me promets que dans le monde à venir, c'est lui qui s'écrasera devant moi, alors je suis d'accord. Mais Hachem l'a dit, si tu demandes, ce ne sera pas toi. Et en fait, il a dit, bon, dans ce cas-là, je fais les veaux d'or. Il a fait les veaux d'or et ça n'a pas manqué, c'est devenu idolâtre. Et le problème, c'est que la question était une fausse question, parce qu'on la Gemara, elle dit que Léati de Lavo, dans le futur, HaKadosh Baruch Hu, il fera. Avec tous les tzadikim, il va faire une énorme ronde. Et lui, il sera au centre. C'était prévu aussi comme ça. Donc Hachem a dit qu'il allait se promener avec David et lui. Ça veut dire qu'Hachem allait se mettre au milieu et que lui et David allaient graviter autour. Et quand on gravite autour, il n'y a personne qui marche devant, personne qui n'est derrière. Et lui, il voulait absolument être devant. C'est ça, Yerovam. Alors, par la suite, comme vous dites très justement, bon, il y a eu la suite, c'est il y a eu des guerres, des révolutions de palais, des assassinats, des changements de dynastie, etc. Il y a eu la même chose, un peu moins fort, probablement du côté de l'autre royaume, mais aussi. Ça ne s'est pas obligatoirement bien passé, il y avait de l'idolâtrie tout le temps. L'idolâtrie, c'était quelque chose de. C'était incontournable à cette époque-là. C'était vraiment très, très difficile. Moi, je disais toujours que c'est un espèce. C'était un must à l'époque. Jusqu'à ce que les Chachamim prient pour qu'Hachem enlève la virulence du Yetzer Hara, de l'idolâtrie, c'était presque intenable. C'est ce que le roi Menaché a dit à Ravachi, quand Ravachi a dit que, vous connaissez cette histoire, que dans la Gemara, dans Sanhedrin, il y a un pérek. Il y a une question que les Chachamim se sont posées. Ils ont essayé de voir qui avait chélek le'olam haba, qui avait une part au monde à venir. Et donc, ils ont regardé les catégories de gens, ils ont. Et Ravachi l'a dit, demain on va s'occuper, enfin disons comme ça, demain on va s'occuper des petits copains. Et les petits copains, c'était les rois. Et le roi Menaché, Menaché, c'est le fils du roi Hizkiyahou, celui qui est presque devenu Mashiach. Celui qui ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'il savait qu'il allait avoir des enfants qui seraient les plus grands idolâtres. Donc il a eu effectivement un enfant, Menaché. Et Menaché est apparu en rêve à Ravachi. Il a dit, dis-moi, tu m'as traité d'être ton petit copain? Qui tu es là pour me traiter comme ça de ton petit copain? Qu'est-ce que tu crois que tu es? Et il lui a dit, est-ce que tu sais seulement comment on coupe le pain quand on fait motzi? Où est-ce qu'il faut couper dans le pain pour au moment de la motzi, de motzi? Alors Abashi lui a dit non seulement je sais pas, je savais même pas qu'il y avait un endroit précis où il fallait couper le pain. Il dit tu sais même pas comment on coupe le pain et tu m'appelles ton petit copain. Alors Abashi dit écoute, enseigne-moi et demain je raconterai ça au Beit HaMidrash en ton nom. Alors il lui a dit qu'il fallait couper le pain là, commencer bah entailler le pain là où il est le plus cuit. Évidemment, c'est pas le même endroit selon qu'on a des fours comme eux, ils avaient des fours sur lesquels on collait des espèces de pitotes sur les parois du four ou c'est ou les fours chez nous ou, chaleur tournante ou comme si, je sais pas. D'accord? Et alors Ravachi lui a dit mais si vous étiez là, à savoir vous étiez tellement proche, quelque sorte, que vous saviez donner du sens à n'importe quoi. Pour vous, couper du pain, c'était quelque chose qui avait du sens. Comment est-ce que vous avez pu être idolâtre? Alors, le roi Menaché, il a dit à Abashi, nous, on avait des grands manteaux. Donc, manteaux qui allaient quasiment jusque par terre. Et ça nous entravait pour marcher. On ne pouvait pas marcher vraiment vite. Mais on était très contents d'être entravés. Parce que ça nous permettait d'arriver au temple plus tard. Toi, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais relevé les pans de ton manteau pour courir plus vite. Alors, fais attention à ce que tu dis. C'était une façon de dire que c'était incontournable. C'est pour ça que les Chachamim ont prié pour qu'Hachem enlève la virulence du Yetzer Hara de l'idolâtrie. C'est comme si vous demandiez aujourd'hui, y compris aux Juifs américains, de cesser de considérer que l'argent est la chose la plus importante. C'est pas possible. Bon, les Américains, c'est quand même des gens, et quand tu leur demandes qui es-tu, ils te répondent, je suis 1 million de dollars. Ils te disent combien ils valent, combien ils gagnent. C'est ça leur être. Leur être à eux, c'est un avoir. On pourrait dire la même chose sur d'autres sujets, aux Français, etc., aux autres, chacun. Donc, Yerovam, bon, c'est. Donc, ces gens-là, on a dû faire la guerre contre eux. Mais le problème, c'est comment on fait la guerre? Est-ce qu'on fait la guerre simplement avec des paroles? Avec des accords que on prend, comme on l'a dit sur la tribu de Benjamin, etc. Ou est-ce que des fois on est obligé de prendre les armes? Mais quand on doit prendre les armes, il faut s'inspirer la façon dont Avraham Avinu a pris les armes quand il a dû prendre les armes. Il a pris les armes pour aller libérer Lot. Il a fait la guerre contre les rois. Alors vous savez bien comment ça s'est passé, la guerre d'Avraham Avinu. C'est une guerre où lui, il jetait sur eux de la poussière et de la paille. Bien sûr que ce qui tombait sur leur tête, c'était pas de la poussière et de la paille. Mais c'est lui, il n'allait pas salir les mains à jeter les armes. Lui, il jetait ça après, qu'Hachem fasse en sorte. Et ce que les autres envoyaient sur lui, ça retombait sur lui aussi, sous forme de poussière et de paille. Il voulait pas salir les mains. C'est un problème, le problème. Mais comme je vous ai dit, les rois, un roi, c'est entre autres une des choses les plus importantes dans la fonction d'un roi, c'est de faire les guerres qu'il faut faire. Quand le Rambam décrit ce qu'il écrit sur le Mashiach, il écrit, s'il fait les guerres d'Hachem, alors éventuellement ce sera la preuve qu'il va être Mashiach. Il n'y a pas que ça, mais entre autres, effectivement, dans la trajectoire qui doit être la sienne pour qu'on puisse envisager pour qu'il puisse devenir Mashiach, il y a le problème de faire certaines guerres, les guerres d'Hachem. On ne dit pas comment il doit les faire. Mais a priori, si j'ai bien compris, Rabbi Akiva, quand il pensait que Bar Kokhba pouvait être un Mashiach, Bar Kokhba, c'était un guerrier. C'était pas un Talmid Racham. Un guerrier. Donc ça fait partie des nécessités, chose que devra faire le Melech HaMashiach, d'après Rambam. Je ne sais pas si tout le monde pense comme lui, mais en tout cas d'après le Rambam, c'est comme ça. Voilà, on va s'arrêter là.
Merci.
Merci, Rav.
Merci, Rav.
Merci, Shkoyar.
Merci, Rav.